Bonsoir à tous. Victime de la sécheresse et de la canicule, la Grèce en proie à deux terribles incendies. Le ravage d'une des dernières forêts de pins de l'île de Bé au nord d'Athènes. La Grèce qui a reçu le soutien de plusieurs pays européens. Nous irons à Athènes dans un instant. L'Italie qui rend hommage aux victimes du drame de Gênes, l'effondrement d'un viaduc autoroutier il y a tout juste un an. En France, la lente décrue du chômage au deuxième trimestre, -0,2%. Il recule particulièrement chez les jeunes. Nous entendrons la ministre du Travail Muriel Pénicaud et le député insoumis Éric Coquerel. Le divorce désormais consommé entre Altis et Fruits. Et au téléphone sonne ce soir Éric Delvaux, le grand méchant loup et
oui.
Les ours.
Oui, le loup et l'agneau, vous pouvez ajouter effectivement l'ours et les brebis. Ce n'est pas une fable, hein. La difficile cohabitation des prédateurs avec les cheptels de bergers. Le gouvernement a déjà annoncé quelques mesures concrètes. C'est insuffisant, disent les éleveurs, tandis que les associations de protection de loups et d'ours craignent pour l'avenir des espèces sauvages. Vos questions, c'est comme chaque soir, 01 45 24 7000.
Éric Delvaux à la case musicale, l'ouverture du festival de la Route du Rock à Saint-Malo avec un programme d'exception, nous dira Corinne Pellissier. La météo, un 15 août qui va presque ressembler à un 15 août. Prévision complète d'Élodie Calac à la fin de ce journal. Les autorités grecques parlent déjà d'une véritable catastrophe écologique impuissante face aux violents incendies qui continuent de dévorer l'île de Bé au nord d'Athènes, dernier poumon vert du pays avec sa forêt de pins, sa faune et sa flore unique. Ces feux sont attisés par des vents très violents. La Grèce a demandé l'aide de la France, de l'Italie et de l'Espagne qui ont envoyé sur place leur avion bombardier d'eau. Plusieurs villages et des centaines d'habitants ont dû fuir. À Athènes, Angélique Kourounis.
Irène, la quarantaine est inquiète. Elle a demandé à sa petite fille et sa mère âgée de ne pas sortir de chez elle depuis 2 jours. Depuis le début de l'incendie à l'île de Bé, elle se réveille la gorge enrouée et les yeux qui piquent à cause de la fumée de cet incendie qui couvre une partie de la capitale.
J'ai peur. Ces forêts qui brûlent nous alimentent en oxygène. L'île de Bé était l'une des rares excursions peu chères possibles pour nous les Athéniens et c'est clair qu'à l'avenir nous allons avoir encore plus de problèmes avec les inondations et la qualité de vie.
De fait, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis qui s'est rendu sur place à l'île de Bé ce matin a mis en priorité la reforestation des régions sinistrées. Il en appelle à la solidarité européenne.
Hélas, le changement climatique et ses conséquences nous accompagnent. Nous accompagnerons pendant de longues années encore. La solidarité européenne devra se traduire de façon concrète en venant en aide aux États les plus vulnérables.
Depuis le 11 juillet dernier, plus de 1307 départs de feu ont été enregistrés sans faire de victimes, mais avec beaucoup de dégâts, de maisons incendiées, des centaines d'hectares de forêts et pinèdes brûlées et autant d'animaux sauvages morts dans les flammes. Mais les pompiers ont prévenu, malgré l'aide européenne, il faudra encore plusieurs jours pour éteindre le feu de l'île de Bé. Athènes, Angélique Kourounis, France Inter.
La crise politique italienne mise entre parenthèses aujourd'hui, le temps d'un hommage. Un hommage à la mémoire des 43 personnes tuées dans l'effondrement du pont Morandi de Gênes il y a tout juste un an. Côte à côte, le président Mattarella et les chefs de file des différents partis politiques du pays pour une cérémonie religieuse empreinte d'émotion. L'édifice construit dans les années 60 a aujourd'hui été détruit. Il constituait le principal axe autoroutier permettant d'enjamber le centre de la ville portuaire. Il sera reconstruit finalement plus vite que prévu. Même si sur le fond, rien n'est vraiment réglé. À Gênes, Antonino Gallofaro.
Le pont Morandi a complètement disparu lundi, 2 jours avant cette journée de commémoration. L'artère principale du quartier sous le pont a donc pu être ouverte, ce qui a mis fin à l'isolement de la zone. Les tonnes de débris devraient disparaître d'ici fin septembre. Et dans le même temps, de l'autre côté de la rivière, les travaux du nouveau pont ont déjà commencé avec quelques 9 mètres de piliers déjà construits. Vittorio Mini, pourtant à la tête du consortium de sociétés chargées de détruire le pont, est surpris par tant de rapidité.
Ces 7 derniers mois ont été des mois difficiles, mais pleins de satisfaction, vu qu'on a réussi à maintenir un bon rythme malgré tout ce que l'on pensait qui pouvait advenir. Nous sommes satisfaits.
Mais la crise politique vient ébranler cette satisfaction. Les Génois ont peur que le spectre d'élections anticipées bloque cette dynamique positive. Mais Marco Bucci, le maire de Gênes et commissaire à la reconstruction, compte bien s'y opposer.
La crise politique n'influera pas sur les travaux de construction du pont Morandi. Il est important que tout le monde le sache. Je me suis personnellement engagé comme le gouvernement, donc je me porte garant. Je vois que quelque chose ne fonctionne pas, je serai le premier à le dire et à tenter d'y remédier.
Si les travaux se poursuivent à ce rythme, le nouveau pont Morandi devrait pouvoir être inauguré déjà au printemps prochain. Gênes, Antonino Gallofaro, France Inter.
Et depuis ce drame, la France a inspecté ses ouvrages d'art. Elle n'est pas mieux lotie que l'Italie. Un rapport du Sénat montre que 7% des ponts de l'Hexagone présentent un risque d'effondrement plus ou moins grand et qu'il faudrait plus d'un milliard pour les réparer. Risque-t-elle à son tour de s'effondrer? En tous les cas, le ministère de la Culture appelle l'urgence de reprendre au plus vite les travaux de Notre-Dame de Paris. Une urgence justifiée par les chutes de pierres à répétition après la canicule de ces dernières semaines. Rappelons que les travaux sont interrompus depuis le 25 juillet dernier en raison du risque de pollution au plomb. La décontamination se poursuit. Elle va durer encore plusieurs jours. Le chômage, au plus bas depuis 10 ans en France métropolitaine, baisse de 0,2% au deuxième trimestre pour s'établir à 8,5% de la population active. Il y a désormais en France 2 400 000 demandeurs d'emploi, baisse qui profite à toutes les tranches d'âge, surtout les jeunes, et dont se satisfait la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Personne n'a de baguette magique pour résoudre le problème du chômage en 24 heures, mais toutes nos réformes de fonds et nos actions de fonds contribuent à cette baisse régulière. Donc, il n'y a pas de fatalité au chômage de masse. On a encore un taux de chômage qui est élevé, donc on pense qu'on peut continuer à le baisser. Mais on a les premiers fruits, je dirais, des grandes transformations qu'on a lancées. Les ordonnances travail, la loi avenir professionnel sur l'apprentissage, l'investissement qu'on fait dans la formation. Donc il y a encore beaucoup à faire, il faut continuer sur le terrain, mais on peut dire que c'est vraiment encourageant.
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, Éric Coquerel, le député insoumis, parle lui de chiffres trafiqués, pas du tout convaincu de la meilleure santé de l'économie française.
On est en train de sortir des chiffres officiels du chômage des gens qui n'ont pas d'emploi. Voilà la réalité. Et donc ça, c'est tout sauf créer plus d'emplois. En réalité, malheureusement, le nombre d'emplois en France, contrairement à ce que dit Mme Pénicaud, n'augmente pas. Éventuellement, quand il augmente, c'est en CDD et pas en CDI. Et le nombre de gens qui sont pauvres dans ces pays augmente. Donc c'est pour ça que je dis que c'est des chiffres trafiqués qui ne correspondent ni au taux de croissance qui continue à être mauvais, ni au taux d'emploi qui baisse, ni au taux d'activité qui baisse. Donc l'économie française, de ce point de vue-là, ça se porte pas mieux.
Éric Coquerel avec Maxime Lambrec. Aujourd'hui, la Bourse de Paris a perdu plus de 2% dans le sillage de Francfort et de Londres. Les places financières inquiètent du risque de récession mondiale après la publication des mauvais chiffres, notamment de l'économie allemande. Épilogue du conflit qui opposait Free au groupe Altis depuis mars dernier. À partir de vendredi, BFM Télé et les trois chaînes de RMC ne seront plus diffusées sur les box de Free. À l'origine de ce divorce, une absence d'accord commercial sur les droits de diffusion entre les deux parties. C'est visiblement une pratique courante dans la Silicon Valley, mais elle pose question sur la protection des données individuelles. Après Google et Amazon, Facebook confesse avoir écouté les conversations privées de ses utilisateurs. Via des sous-traitants, la firme écoutait les conversations sur Messenger pour les retranscrire et ainsi améliorer son outil de reconnaissance vocale. Les précisions à Los Angeles de Loïc Piala.
Les utilisateurs de Messenger pouvaient accepter en amont d'avoir leurs conversations retranscrites. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que des humains les écouteraient et des humains extérieurs à Facebook, dont l'entreprise était sous contrat avec le réseau social. Nous collectons le contenu, les communications et d'autres informations que vous fournissez quand vous utilisez nos produits, y compris quand vous communiquez avec d'autres, prévient vaguement Facebook sur son site. Pas de quoi ranger l'image d'une société qui a écopé cette année d'une amende record de 5 milliards de dollars pour ne pas assez respecter la vie privée de ses utilisateurs. La firme californienne a mis un terme à cette pratique il y a une semaine. Cet été, on a appris qu'Apple, Skype et Google aussi écoutaient les conversations de leurs utilisateurs. Même chose pour Amazon. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Le journal de 19h. Sur France Inter.
L'activiste Vincenzo Vecchi va-t-il être extradé vers l'Italie? La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rennes rendra sa décision en délibéré le 23 août prochain. L'homme de 46 ans a été arrêté la semaine dernière dans un petit village du Morbihan où il vivait sous une fausse identité depuis 8 ans. Vecchi, condamné en Italie à 12 ans de prison pour des violences lors du G8 de 2001 à Gênes. Quelques manifestants sont venus le soutenir ce matin devant le tribunal de Rennes. Il piège un instituteur en possession d'images pédopornographiques, piège tendu sur Internet par des lycéens de Vittel. Ils se sont fait passer pour une jeune mineure avant de donner rendez-vous à l'enseignant, mais cette fois avec la police. L'homme sera jugé à la fin du mois, David Di Giacomo.
C'est d'abord un défi entre plusieurs lycéens des Vosges, réussir à piéger sur la toile des prédateurs sexuels. Sur un site de rencontre, ils se font passer pour une adolescente de 16 ans. Un internaute entame le dialogue et donne rendez-vous à la jeune fille au parc thermal de Vittel. Sur place, cet instituteur d'une cinquantaine d'années tombe sur les lycéens, il l'intimide pour qu'il ne cherche plus à contacter des mineurs, puis le dénonce à la gendarmerie. Une perquisition permet de découvrir plusieurs dizaines d'images pédopornographiques sur l'ordinateur de ce père de famille. Pour autant, son avocate affirme qu'il ne s'agit pas d'un prédateur sexuel, maître Nancy Rizacher.
Il reconnaît une addiction forte à la pornographie, mais la pornographie entre adultes. Et comme il y a de tout sur ces sites, oui, certaines mettaient en scène des mineurs. Mais en aucun moment, il n'a choisi de taper des mots-clés qui pourraient l'aiguiller sur des sites de jeunes.
Placé sous contrôle judiciaire, cet instituteur n'a pas le droit d'entrer en contact avec des mineurs. Il a l'obligation de se soigner. Son avocate précise d'ailleurs qu'il a entamé dès ce matin un suivi psychologique. Il sera jugé le 27 août prochain.
Les enquêteurs britanniques semblent tenir une piste sérieuse pour expliquer les conditions dans lesquelles le footballeur Emiliano Sala et son pilote ont trouvé la mort en janvier dernier. D'après les enquêteurs britanniques, les deux hommes auraient été exposés à des niveaux potentiellement mortels de monoxyde de carbone avant la chute de l'avion dans la Manche. Un risque connu en cas de mauvaise étanchéité de la cabine ou de fuite dans les systèmes de ventilation et de chauffage. On ne l'a appris qu'aujourd'hui, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration la semaine dernière. Après la disparition de la jeune Nora en Malaisie, la famille de l'adolescente a aussi porté plainte contre X. On attend les résultats de l'autopsie au lendemain de la découverte du corps de la jeune fille dans un ravin de la forêt tropicale. Ils sont les premiers à payer les menaces de Pékin. Deux pilotes de Cathay Pacific limogés pour leur soutien aujourd'hui aux manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Cathay Pacific prise entre deux feux, sa relative indépendance et les exigences du pouvoir central. Encore aujourd'hui, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants devant un commissariat de police. En revanche, ils n'ont pas occupé l'aéroport comme les jours précédents. Le tourisme à Cuba victime des sanctions américaines. Au début de l'été, Donald Trump interdisait aux navires de croisières américains de faire escale à La Havane. Un coup dur pour l'île des Caraïbes où le tourisme constitue sa deuxième source de revenus. Reportage à La Havane de Domiti Piron.
Devant le Capitole, Igor Galan attend désespérément au plein soleil que des touristes montent dans sa Chevrolet de 1951 pour un tour de la ville. Il y a quelques années, il avait parié sur le secteur touristique en découpant la vieille voiture de son grand-père pour en faire une décapotable et en la repeignant en rose et blanc, les couleurs de l'époque.
C'est un gros investissement, mais on pouvait l'amortir à l'époque où il y avait beaucoup de touristes. En deux ans, on pouvait récupérer l'argent investi. Maintenant, il va falloir attendre de voir ce qui se passe. En tout cas, on ne travaille pas pour s'enrichir, mais plutôt pour survivre.
Beaucoup de Cubains semblent également nostalgiques de l'époque de Barack Obama. Le rapprochement en 2015 entre Cuba et les États-Unis avait été porteur de beaucoup d'espoir pour le secteur indépendant. Roberto est gérant d'une auberge à la Vieille Havane.
Pour nous, comme on dit, ça a été un âge d'or. Après, avec l'arrivée de Donald Trump, l'impact s'est fait ressentir et nous sommes de nouveau en crise. Il dit vouloir aider le secteur privé, ici à Cuba, mais il l'affecte en réalité avec ses politiques.
Ce travailleur indépendant n'a jamais connu pire saison touristique. Et en effet, l'État cubain, qui ne recevait déjà pas d'Américains dans ses hôtels et circuits, semble moins affecté. Mais l'impact est chiffré, 10% de touristes en moins en 2019 par rapport à l'année dernière. Domiti Piron, La Havane pour France Inter.
Stéréolab, Métronomie, Watchip, trois jours de concert pour enflammer le fort de Saint-Père avec ce qui sera sans doute l'une des plus belles programmations de l'été. Le festival de la route du rock reprend ses quartiers ce soir à Saint-Malo avec une programmation résolument rock et des groupes que vous ne verrez nulle part ailleurs. Corinne Pellissier.
Fidèle à la même ligne artistique depuis bientôt 30 ans, la route du rock dénote dans le paysage musical ambiant. Ici, pas de variété, de hip-hop ou de R&B, mais des guitares fiévreuses. La révélation 2017 du festival, le groupe Idols, de retour à Saint-Malo avec un nouvel album, ou encore les Australiens de Tame Impala, que les têtes pensantes du festival, François Floret et Alban Coutou, ne sont pas peu fiers de programmer cet été.
C'est un des grands noms de la scène indie-rock actuelle. C'est vrai qu'on a la chance de les accueillir pour une de leurs seules dates en France cette année.
Puis en dehors du beau concert qu'ils vont nous faire, on en est sûr, c'est aussi un énorme show. Hein. Beaucoup de laser, beaucoup de canons à confettis, c'est la fête. Quoi. Ils jouent devant des écrans vidéo géants, enfin, ça va être extraordinaire.
Un lieu de rêve, le Fort Saint-Père à Saint-Malo, qui devrait accueillir cette année encore dans les 30 000 spectateurs, avec pour la première fois des tarifs réduits pour les moins favorisés.
On n'a pas attendu le mouvement des Gilets jaunes pour se rendre compte que c'était pas simple de dépenser un peu de sous sur des concerts, sur les loisirs. Et donc nous, cette année, pour la première fois d'ailleurs, on va rendre un peu plus accessible peut-être le festival au plus grand nombre.
Incontournable cette année, les concerts de Stéréolab, Hot Chip et Métronomie.
Et pour finir, la grande victoire du foot au féminin. La Française Stéphanie Frappard va devenir ce soir la première femme à arbitrer un match de Coupe d'Europe chez les messieurs, arbitre de la Super Coupe d'Europe entre Liverpool et Chelsea, entre le vainqueur de la Ligue des Champions et le tenant du titre de la Ligue Europa. Bonsoir Elodie Callac.
Bonsoir à tous.
Ce sera demain un 15 août qui va ressembler presque à un 15 août avec une météo mitigée.
Exactement. Alors sur la plupart des régions, les nuages auront largement l'avantage le matin. Quelques averses en prime, du vent au nord de la Loire. L'après-midi, quelques averses résisteront près des frontières du nord. On aura également quelques averses entre l'intérieur de la Normandie, la région parisienne et la Franche-Comté. Mais là, les éclaircies s'élargiront. Et puis ailleurs, ça ira mieux. Les éclaircies prendront le dessus. Pour le plein soleil, ça se passe autour de la Méditerranée avec toujours du vent. Mistral, Tramontane et vent d'ouest, du Var jusqu'à la Corse, qui souffleront jusqu'à 50 à 70 km à l'heure.
Et les températures vont enfin remonter.
Oui, le matin, du moins, pas moins de 13 à 18 degrés, jusqu'à 21 pour le sud-est. L'après-midi, à peu près comme aujourd'hui, 20 degrés au Havre, 21 à Lille, 23 à Paris, 24 à Angers, à Dijon, 26 à Lyon et à Montauban, 30 à Perpignan et on ira jusqu'à 33 degrés à Marseille.
Élodie Callac.